7h. Le journal de 7h. Christelle Yesso.
7h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire, c'est l'heure de la première édition de ce lundi matin. Madame, Monsieur, bonjour. Révision de la liste électorale. La commission électorale indépendante a organisé une rencontre d'information avec des organisations de la société civile. Le point de vue d'une d'entre elles en début d'édition. La première édition de Champion, événement célébrant la créativité et l'innovation des entrepreneurs, s'est tenue vendredi à Abidjan, mettant en avant 5 catégories d'entrepreneurs comme modèle de persévérance. Hors de chez nous, le 19e sommet de la francophonie a pris fin ce vendredi en France. L'intervention du président français Emmanuel Macron sur les sujets abordés à suivre dans cette édition. Et la revue des titres de ce matin sera l'affaire de Mel Emmanuel. Et nous clôturons ce journal avec Nguessan Mahoumed, enseignant au département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il sera notre invité de la rédaction. Avec lui, nous parlerons de ce livre à polémique signé Robert Bourgi, intitulé « Ils savent que je sais tout, ma vie en sang en France-Afrique ». Élection présidentielle 2025. La période de la révision de la liste électorale est connue depuis quelques jours. Elle est prévue du 19 octobre au 10 novembre 2024, selon la commission électorale indépendante. Coordonnateur de la Convention de la Société Civile, une ONG ayant pris part à une rencontre d'information à cet effet, Mamadou Kouma se prononce sur cette opération de recensement électoral à venir. Pour lui, les choses se déroulent de façon habituelle et convenable. On écoute en ligne avec Soro Adams.
Alors, c'est une réunion que je considère comme classique, basique, et qui s'inscrit dans l'ordre normal des opérations qui doivent être effectuées en prélude des élections de 2025. Nous avons reçu des informations de la part de la CEI, conformément au code électoral. Nous pensons que les choses se passent convenablement. Les opérations qui doivent être effectuées, les listes qui seront mises à la disposition de tous, la possibilité pour chacun de vérifier. Et si nous estimons qu'il y a des choses qui ne vont pas à tel ou tel niveau, mais il revient de droit aux concernés, aux parties prenantes, de les indiquer pour que les mesures soient prises. C'est un travail purement technique.
Et en termes de nouveautés annoncées dans cette opération,
Il n'y a pas de nouveautés à proprement parler. Les nouveaux majeurs qui doivent être inscrits, ben, il y a des dispositions, je pense, techniques et administratives qui sont prises à ce niveau. Ça ne devait pas poser de problème.
Le certificat de nationalité, c'est gratuit maintenant, non?
Le certificat de nationalité, oui, c'est à la portée de tous. Donc ça ne devait pas poser de problème. On sait comment faire pour l'acquérir.
Mamadou Kouma, coordonnateur de la Convention de la Société Civile. La Guinée-Bissau, le Rwanda, le Cap-Vert et la Côte d'Ivoire en réflexion à Abidjan dans le cadre de la coopération Sud-Sud pour un partage d'expériences et de pratiques en matière de protection sociale. Un atelier de préparation technique et administrative s'est tenu à cet effet vendredi dernier à l'initiative de l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail. Selon le représentant de la directrice pays de cette organisation, la Côte d'Ivoire devrait investir 6,2% de son PIB pour réduire le déficit en matière de protection sociale. Suivons Jean-Marie Kagabo.
Des analyses du contexte social et économique de la Côte d'Ivoire révèlent que pour réduire le déficit de financement de la Côte d'Ivoire pour la protection sociale universelle, y compris les soins de santé essentiels, il faudrait investir 6,2% du PIB. L'OIT, nous soutenons le gouvernement qui a intégré dans sa nouvelle politique de sécurité sociale un axe entier à l'accroissement du financement et de la sécurité sociale et vise l'adoption d'une loi de financement et l'identification de mécanismes de prélèvement à la source des travailleurs de l'économie informelle. Nous nous réjouissons de la décision du gouvernement ivoirien de prendre en charge les cotisations dues par les producteurs de cacao et leurs familles au titre de la CMU à travers le Conseil Café Cacao. Le projet de coopération Sud-Sud avec le Rwanda, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau offre l'occasion aux acteurs du système de la protection sociale de s'enrichir des expériences et bonnes pratiques réussies dans des pays ayant des profils quasi identiques à celui de la Côte d'Ivoire. mois. L'Organisation internationale du travail reconnaît l'importance de la coopération Sud-Sud comme un moyen essentiel de mener à bien sa mission. L'OIT a institué le rôle de la coopération Sud-Sud pour aider les pays à atteindre leurs objectifs de développement et à réaliser les ODD.
À l'instant, Jean-Marie Kagabo, représentant de la directrice pays régionale de l'OIT. Parlons entrepreneuriat. La première édition de Champion, événement célébrant la créativité et l'innovation des entrepreneurs, s'est tenue vendredi à Abidjan, organisée par Côte d'Ivoire Événement. Cette édition a mis à l'honneur la jeunesse entrepreneuriale. 5 catégories d'entrepreneurs étaient représentées. Ils ont invité les jeunes à ne pas avoir peur de l'échec et à faire preuve de résilience. Le compte-rendu de cet événement avec Jean-Mylène Bitti.
Foster Uncho, initiateur de Champion, le stand-up de nos héros du quotidien, a présenté les objectifs de l'événement.
Champion, c'est un public qui est dédié à toute personne qui se distingue sur l'année. Que vous soyez jeune, que vous soyez moins jeune, que vous soyez de la deuxième catégorie d'âge, la troisième catégorie d'âge, cette tribune est pour tout le monde.
5 héros étaient à l'honneur. Alain Anzara, Zagba Lurikin, Raissa Banro, Ben Aziz Konaté, Ibrahima Diabaté. Ils ont successivement partagé leur expérience enrichissante. Zagba Lurikin, artiste et promoteurs culturels, et Aziz Konaté, chef d'entreprise, ont notamment adressé des messages inspirants à la jeunesse.
L'échec, la souffrance, la persévérance, c'est pour les hommes. Toi, tu ne parles que le côté bonheur. Réveille le talent d'agriculteur qui est en toi. Réveille le talent de boxeur qui est en toi. Il ne faut pas être photocopie, il faut être original.
Tant qu'on n'a pas atteint l'arrivée, on n'est pas arrivé. Et ceux qui réussissent, ils arrivent à continuer de marcher, même quand ils tombent. C'est la seule différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Quand on a compris ça, on n'a peur de rien.
Le panel a été unanimement salué par les participants.
Cyrine Bakayoko, élève à l'école nationale d'administration. Nos panélistes ont montré que le travail, la persévérance, la sagesse, l'intelligence est mieux.
Timoko Nyoseka Seadasa, je suis juriste. Le mot commun à tous ces panélistes-là est la persévérance. Nous ont incité à avoir une vision et à avoir des stratégies pour pouvoir atteindre cette vision.
Cette première édition était parrainée par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Touré Mamadou.
Professionnalisation du transport artisanal. L'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, Amuga, et une société de transport et services ont signé vendredi à son siège à Cocody de Plateau un contrat pour la gestion et l'exploitation de la première tête de stationnement du projet pilote réalisé par l'Amuga dans la commune de Yopougon. Cette cérémonie a été marquée par la remise symbolique des clés de cette infrastructure. Témoin pour Radio de la Paix, Jean-Claude Mabéa.
Sur le contenu de ce contrat de partenariat, voici les précisions du directeur général de l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, Amuga, Romain Kwaku.
Cette convention que nous avons signée avec cette structure-là qui opère déjà à Yopougon va donc se charger d'exploiter, d'entretenir ces aménagements-là. On a prévu des toilettes là-bas qu'il faut qu'au quotidien, on puisse veiller à entretenir. Et je crois que principalement, le cahier de charge va me permettre d'exploiter. Il va y avoir n'est-ce pas, des départs, que ce soit des lignes qui vont desservir, les heures de pointe, les heures creuses, combien de moyens de transport qui vont quitter la tête de stationnement, les temps de révision, d'entretien dans le cahier de charge, tout ça c'est précisé.
Un suivi et évaluation de ce projet est prévu selon le directeur général de l'Amuga, Romain Kwaku.
On part tous rassurés qu'on va se retrouver chaque 2 mois pour évaluer, pour voir si tout marche bien. Parce qu'en temps au-dessus de tout ça, il y a donc la mairie et l'ensemble des acteurs clés qui constituent le comité de suivi. Et donc c'est pour moi l'occasion de remercier la mairie de Yopougon pour cette première expérience.
Le gestionnaire de l'entreprise de transport et de services, Kone Sendou, parle ici des moyens dont il dispose pour la mise en œuvre du projet.
Le premier moyen qu'on dispose, c'est intelligence, stratégie, adaptation à nos camarades. Puis ils viennent, on va travailler pour penser dans nos projets actuels.
Après la phase pilote, ce projet va progressivement être dupliqué dans plusieurs communes du Grand Abidjan pour faciliter la mobilité des usagers, a précisé le directeur général de l'Amuga.
Et un mot de santé dans cette édition. L'environnement social dans la capitale ivoirienne est favorable au développement des maladies cardiovasculaires, a indiqué Jean-Baptiste Anzouan Kakou, directeur médical et scientifique de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. S'exprimant au cours de la tribune d'échange et d'information du Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, dénommé Tout Savoir Sûr, Mardi dernier, il a relevé que ces maladies peuvent être évitées en adoptant un mode de vie sain. On l'écoute.
Nous avons un environnement qui est favorable à l'éclosion de ces maladies cardiovasculaires avec le stress, la pollution, la mauvaise alimentation. Nous avons un environnement qui va favoriser l'éclosion de l'hypertension artérielle, l'inactivité physique, favoriser l'éclosion du diabète, favoriser l'éclosion de ces facteurs de risque à tabagisme et donc de l'hypertension artérielle et des maladies cardiovasculaires. Si vous mettez ensemble les maladies cardiovasculaires, insuffisance cardiaque, maladies coronaires et les accidents vasculaires cérébraux, ces maladies cardiovasculaires constituent la première ou la deuxième cause de mortalité dans notre pays. Elles font pratiquement jeu égal avec les maladies qui vont emporter les nouveau-nés, la mortalité néonatale et pratiquement jeu égal avec les infections respiratoires. Donc c'est un problème qui est extrêmement intéressant. On peut prévenir ces maladies cardiovasculaires pourvu que l'on adopte des mesures d'hygiène de vie qui soient favorables.
Jean-Baptiste Onzouan Kakou, directeur médical et scientifique de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Hors de nos frontières, le 19e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, s'est achevé samedi au Grand Palais à Paris, en France. Un sommet qui a enregistré l'adhésion de 5 nouveaux membres au sein de l'organisation, passant de 88 à 93 États et gouvernements. Lors de la conférence de presse de clôture, l'hôte de ce 19e sommet de l'OIF, le président français Emmanuel Macron, est revenu sur les principaux sujets évoqués et les résolution, on l'écoute.
Tous ensemble, nous avons évoqué les sujets qui comptent pour nous tous, avec le double objectif d'accélérer la coopération au sein de la francophonie dans les domaines économiques, éducatifs et culturels, mais aussi de porter ensemble une ambition commune sur les grands enjeux globaux et la solution des crises. Au nom de nos valeurs communes, nous avons aussi formulé un message conjoint sur la fin de la guerre à Gaza comme en Ukraine. Pour nous, il n'y a pas de double standard. Une vie égale une vie. Nous avons aussi redit l'importance de parvenir à une solution durable des crises dans la région des Grands Lacs, apporter notre solidarité avec la RDC, appeler au respect de sa souveraineté, demander une solution régionale et appeler aussi à tous les efforts de sécurisation et de démilitarisation qui sont attendus de chacune des parties prenantes. Sur le Sahel, nous avons exprimé notre volonté que l'OIF soit force de proposition et d'action, comme elle l'a été à l'égard de la Guinée. Sur les questions essentielles du climat, de l'environnement et des grands enjeux qui concernent la planète tout entière, nous avons décidé de lancer des consultations francophones en amont des échéances à venir. Au fond, c'est notre volonté, faire de la francophonie un espace de concertation, de convergence utile pour avoir un multilatéralisme plus efficace et nous organiser d'une même voix tous ensemble. C'est aussi pour cela que la francophonie soutient les deux sièges de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies à l'Afrique, et nous l'avons réitéré.
Vous écoutiez Emmanuel Macron, président de la République de France. Au Mali, ce lundi doit se tenir le procès en appel de l'économiste Étienne Fakaba Sissoko, ancien conseiller à la présidence, à la primature, ou encore à l'ex-mission onusienne au Mali, la MINUSMA. Il avait été condamné en mai 2024 à 2 ans de prison, dont un ferme, et à payer des dommages et intérêts à l'État de 3 millions de francs CFA, notamment pour atteinte au crédit de l'État. Étienne Fakaba Sissoko avait osé dénoncer dans un livre publié fin 2023 la propagande du gouvernement malien de transition. La cour d'appel est censée se prononcer à la fois sur la condamnation prononcée par le tribunal et sur le refus de sa libération provisoire. Et nous en arrivons à présent à la revue des titres de ce lundi matin. Et c'est avec Mel Emmanuel qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Mel.
Bonjour Christelle, bonjour à toutes et à tous. Beaucoup à dire, beaucoup à écrire sur la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, qui semble être arrivée à son apogée, une apogée qui a un goût de déclin, à s'en référer à certains journaux parus ce jour. Ils y consacrent pour la plupart un éditorial. Prenons par exemple Le Patriote qui écrit, parlant de la FESI, « En finir définitivement avec le monstre » ou « Le mandat qui reprend la FESI, l'hydre vaincu » ou encore « L'avenir qui marque, FESI toujours, non, plus jamais ». En plus de son édito, ce dernier tabloïd propose un dossier sur cette association syndicale et studentine qu'il a intitulé « FESI, le désespoir d'une lutte ». La Côte d'Ivoire connaît une embellie diplomatique sans précédent, toujours selon la presse ivoirienne de ce lundi 7 octobre 2024. Développement durable, Beugré Mambé partage l'expérience de la Côte d'Ivoire à Hambourg, titre l'expression qui fait aussi cas de la deuxième édition des consultations politiques qui témoignent des relations au beau fixe entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. S'agissant des hydrocarbures, l'Inter et le Jour Plus nous apprennent que le ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole, Sangafoa Koulibaly, a noué des contrats fructueux en Angola. Ce renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Angola s'est fait en marge de la 5e conférence et exposition sur le pétrole et le gaz, précise le Nouveau Réveil. La vie des partis politiques prend place dans cette revue des titres avec un climat de possible dissension au sein du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Et c'est le temps qui ouvre le bal sur le sujet, affirmant qu'à cause d'un problème de clan, la guerre fait rage au RHDP. Mais la réponse ne se fait pas attendre avec cette une de Le Rassemblement. Bruit dans le tompi, Vagondo met fin au débat et rassure « Je suis fier de ma brie et je suis à ses côtés ». D'ouest en est, dans le même schéma, le matin titre, tournée de remobilisation du directoire du RHDP, Kafana scelle la paix et la réconciliation dans le Bounkani et le Gontougo. Du côté du Front populaire ivoirien, notre voix fait savoir que l'heure est à la préparation du 5e congrès ordinaire où 7000 délégués sont attendus à Yamoussoukro. Enfin, au parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, la guerre de positionnement fait rage en raison d'une incertaine candidature de Gbagbo à la présidentielle de 2025, nous dit l'expression. Merci à toutes et à tous et bonne lecture de vos journaux.
Merci à vous Mel Emmanuel pour cette revue des titres de nos journaux que l'on pourra écouter à nouveau au cours de la prochaine édition. Et nous en sommes au dernier point fort de cette édition, l'invité de la rédaction. L'avocat français Robert Bourgi vient de publier ses mémoires sous le titre « Ils savent que je sais tout, ma vie en France-Afrique ». Un livre parsemé de révélations sur l'antichambre des relations entre la France et ses anciennes colonies, contenant des révélations sur la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Un livre qui suscite diverses réactions et commentaires depuis sa parution. Interrogé par Aoussi Potin, Nguessan Mahoumed, enseignant au département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny, professeur d'histoire politique et juge, relève que cet ouvrage, au-delà de toute polémique ou controverse, doit pousser les uns et les autres à faire le ménage dans l'arrière-cour de la France-Afrique. Suivons-le dans cet entretien.
Professeur Nguessan Mahoumed, bonjour.
Bonjour, monsieur.
L'avocat français Robert Bourgi vient de publier ses mémoires sous le titre « Ils savent que je sais tout, ma vie en France-Afrique », un livre parsemé de révélations sur la France-Afrique, en l'occurrence les relations entre les défunts présidents Omar Bongo et Jacques Chirac, l'argent aussi étant présenté par l'auteur comme un élément incontournable de ces relations, mais aussi l'avocat français fait ses révélations sur l'élection présidentielle de 2010-2011 en Côte d'Ivoire, des événements qui relèvent pratiquement du passé. Alors dites-nous, comment comprendre dès lors, selon vous, le timing de ces révélations de l'avocat français Robert Bourgi?
Je voudrais d'abord faire remarquer que c'est d'abord un mémoire, donc quelque chose d'ordinaire pour des hommes qui sont d'une tradition de l'écriture. Vouloir laisser une trace, donc c'est d'abord quelque chose d'ordinaire. Mais au-delà de l'ordinaire, ce sont surtout les révélations qui sont faites qui retiennent l'attention surtout des Africains que nous sommes. Alors, moi, je pense que c'est la preuve que la crise post-électorale ivoirienne n'a pas encore livré tous ses secrets. À soi, c'est ce à quoi je pense. Il y a donc matière à réflexion, surtout pour nous, les historiens, plus tard, lorsque les archives seront accessibles. Alors, pourquoi maintenant? Tout simplement, c'est tellement que monsieur veut écrire sa mémoire. Donc, moi, je pense que le temps n'est pas important, mais c'est surtout le contenu qui peut faire l'objet de réflexion.
Alors, quelle est l'importance de cette approche pour vous, l'historien, adoptée par l'auteur Robert Bourgi, exhumer le passé avec des points qui peuvent être discutés et discutables par d'autres acteurs aussi?
Bon, je l'ai dit tantôt que la première leçon à retenir, c'est que la crise ivoirienne n'a pas fini de révéler tous ses secrets. Ça, c'est de un. De deux, ce qu'il dit montre aussi un peu, si vous voulez, la face cachée de ce qu'on appelle la France-Afrique. Je suis courtois, je dirais même la laideur, l'arrière-cour de ces relations entre la France et l'Afrique. Et il dit sa part de vérité, sa vérité à lui, il appartient maintenant de voir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est moins juste dans tout ce qui a été écrit dans cet ouvrage. Mais, dans l'ensemble, retenons qu'il y a des rapports, je dirais, un peu malsains entre la France et certaines de ces anciennes colonies qui sont aujourd'hui États indépendants, guillemets, et je pense que c'est un des aspects de ce livre.
Alors parlons donc de la France-Afrique, aujourd'hui c'est une génération plus ou moins nouvelle de chefs d'État africains, les dinosaures se comptent sur le bout des doigts. Est-ce qu'aujourd'hui la France-Afrique n'a pas quand même connu quelques mutations pour qu'on ne se retrouve plus dans le schéma ou encore dans les scènes décrites par Robert Bougie de chefs d'État africains qui enverraient de l'argent des chefs d'État français pour soutenir leur campagne et autres? Est-ce qu'on nous sommes encore dans ce schéma aujourd'hui?
Cette génération de chefs d'État, je dirais heureusement ou malheureusement, mais elle est en train de sortir de la scène. Et c'est un peu curieux, mais lorsque vous voyez autour de ces ex-colonies, vous voyez qu'il y a pratiquement d'abord des changements de régime, pas par la voie démocratique. Vous voyez que lorsque ces régimes changent, la première des choses, c'est quoi? C'est de contester l'ordre ancien, la vision ancienne des relations entre la France et l'Afrique. Donc, cette image ancienne n'est plus acceptée par la génération nouvelle.
Vous faites sûrement allusion au Niger, au Burkina. Et
tout à fait, au pays de l'AES
et le Mali.
Tout à fait. Donc, à tort ou à raison, ils brandissent cela, mais c'est quand même un fonds de commerce qui a des preneurs. Et ces chefs d'État arrivent à partir d'abord de cette vision ancienne qu'ils contestent à se positionner dans leur pays, vis-à-vis surtout de leur jeunesse. Donc, c'est pour une façon de vous dire que ces relations, telles que vécues à une époque, ne sont plus acceptées par une frange importante de la jeunesse africaine. Il appartient donc aux dirigeants actuels, s'ils sont encore dans ce schéma, de tirer les leçons de tout ce qui se passe autour d'eux, de tout ce qui se passe en Afrique.
Professeur Nguessan Mohamed, ces révélations de Robert Bougie dans son ouvrage, je rappelle donc, ils savent que je sais tout, ma vie en France-Afrique, selon vous, peuvent-elles servir ou desservir les relations entre la France et ses anciennes colonies dans la Côte d'Ivoire? Ou donner une nouvelle impulsion?
Tout à fait. Je préfère la dernière expression que vous venez d'employer. Donner une nouvelle impulsion si les uns et les autres font une lecture à froid de tout ce qui a été dit dans l'ouvrage. Parce que, comme je le disais tantôt, cet ouvrage, on ne l'a pas encore lu, mais avec les morceaux choisis, on se rend compte que l'arrière-cour de la France-Afrique n'est pas présentable. Alors, est-ce que la France a intérêt à poursuivre sur cette voie? Si elle poursuit sur cette voie, je ne suis pas quelqu'un qui lit dans une boule de cristal, mais il y a de fortes chances que cette vision soit contesté par la jeunesse africaine qui n'accepte plus ce que les pères fondateurs ont accepté. Donc il appartient à la France de tirer toutes les leçons. Il appartient également à nos dirigeants de comprendre que les populations africaines n'acceptent plus la soumission telle que présentée dans l'ouvrage.
Professeur Nguessan Mohamed, nous vous disons merci.
Merci.
C'était l'invité de la rédaction avec Nguessan Mohamed, enseignant au département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, professeur d'histoire politique et juge sur la polémique autour de l'œuvre de Robert Bougie intitulée « Ils savent que je sais tout, ma vie en France-Afrique ». Et c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. À présent, le rappel des principaux titres. Révision de la liste électorale. La Commission électorale indépendante a organisé une rencontre d'information avec des organisations de la société civile qui, selon elle, tout se passe normalement selon les conditions actuelles. La première édition de Champion, événement célébrant la créativité et l'innovation des entrepreneurs, s'est tenue vendredi à Abidjan, mettant en avant 5 catégories d'entrepreneurs comme modèle de persévérance. Et hors de chez nous, le 19e sommet de la francophonie a pris fin ce samedi en France. Les moyens de sortie de crise et les questions de sécurité au Moyen-Orient et en Afrique ont été abordés par le président français Emmanuel Macron. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez votre magazine au cœur de la Maramonde avec Didier Blé.
Yeah. Monde de Maracana, Maramonde, Côte d'Ivoire 2024. C'est du 27 septembre au 7 octobre 2024 sur Radio 2.